professeur à Howard University. Nous avons également René Lec, analyste politique et consultant, et Karine Kaneza Nontulia, elle est directrice du plaidoyer à la division Afrique de Human Rights Watch. Merci à tous d'être avec nous. Je démarre avec vous, Marilyn. Joe Biden a-t-il bien réussi ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche pour vous?
On peut dire qu'il a vraiment réussi ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche parce que son bilan, en fait, n'est battu que par Roosevelt. Il a fait des progrès énormes pour ce qui est de la vaccination des Américains. Dans 200 millions d'Américains ont déjà au moins une première dose de vaccin. Et il a également fait quelques progrès en matière d'immigration et en matière de justice sociale.
Il a décidé d'aller très vite pour ses 100 premiers jours, c'est ça?
Absolument.
René, pourquoi selon vous, quand même, Joe Biden n'a pas un taux de popularité plus élevé? On le situe à 52-53% malgré ses efforts sur le front du Covid et sur le plan de relance économique.
Écoutez, Abdourahmane, je crois que là, vous touchez du doigt la situation politique générale du pays. Le niveau de division de la société américaine est sans précédent. Et vous avez tout à fait raison, depuis Eisenhower, on n'a pas eu de président à un niveau aussi bas. Il fait mieux que Donald Trump, bien entendu, mais par rapport à, en comparaison avec tous les autres à 100 jours, il est bien loin derrière. La moyenne, c'est quoi? C'est 68-69. Obama, à cette période, était à 69%. Donc, c'est vrai, je crois que c'est simplement une indication du caractère extrêmement divisé de l'Amérique et aussi la sortie un peu tumultueuse de l'élection, de la dernière élection. Donc je pense que la combinaison de tous ces facteurs fait qu'au fond, ce n'est pas aussi populaire qu'on aurait pu le penser.
D'accord. Karine, comment est-ce que vous voyez certaines des grandes décisions qu'il a eu à prendre pour ses 100 premiers jours, des décisions clés comme le retour à l'accord de Paris sur le climat avec sa dimension, disons, droits humains, mais également la décision de Washington de réintégrer la commission de l'ONU des droits de l'homme?
Absolument. Non, des décisions qui sont importantes. J'aimerais aussi ajouter la révision, le rejet des restrictions sur par rapport aux visas et aux sanctions contre le procureur de la Cour pénale internationale et de son équipe. Donc des décisions qui montrent une volonté de repartir sur un chemin nouveau, sur un dialogue nouveau, un accent particulier par rapport aux engagements multilatéraux et au concept des droits de l'homme. Mais ce qui reste à voir, évidemment, ce sont des actions qui vont devoir suivre ces décisions. Le vote américain au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, leurs opinions et leurs positions sur des questions assez particulières par rapport justement à certaines crises qui secouent le continent africain, où justement nous avons vu un changement et vraiment un rejet du leadership américain, une absence de la voix américaine. Donc voilà, c'est assez mitigé, de très bonnes décisions, mais nous espérons et nous attendons de voir justement des actions concrètes qui devraient renforcer ces messages.
D'accord. Marilyn, le président Biden mardi a salué ce qu'il appelle des progrès extraordinaires dans la lutte contre le Covid. Mais comment est-ce qu'il doit s'y prendre pour convaincre tous ces Américains, dont une majorité de républicains, qui ne veulent pas se faire vacciner ou veulent qu'on en finisse carrément avec les restrictions? Pour revenir un peu à cette question de division qu'évoquait René un peu plus tôt.
Oui, alors malheureusement, la question du vaccin est devenue une question politique. Alors certains ne veulent pas se faire vacciner simplement par principe, je dirais même politique. Donc la tâche qu'il a est une tâche extrêmement délicate parce qu'il s'agit de la santé publique avant tout et il s'agit de convaincre ceux qui n'ont pas encore été vaccinés. Il a commencé déjà à faire cette sorte de campagne en se faisant vacciner lui-même devant tout le public américain, mais aussi en prenant le micro hier et en insistant sur l'aspect santé publique de la chose. Comme il disait lui-même hier, devant les caméras, il ne s'agit pas simplement de se protéger soi, mais il s'agit aussi de se protéger autrui. Donc il s'agit là d'un devoir de citoyen. Et on remarque aussi la gestuelle quand il l'a fait, parce qu'il s'est légèrement penché vers la caméra afin qu'on le voit son visage encore de façon plus définie pour justement montrer l'importance de ce moment. Donc la tâche est difficile. Ce qui rend encore plus difficile la tâche, c'est cette... malheureusement, il y a eu le fait qu'il y ait eu malheureusement des morts avec le vaccin Johnson & Johnson. Et donc, cela rend sa tâche beaucoup plus délicate. Mais on se rend compte quand même qu'au départ, il s'agissait de vacciner 777 000 personnes par jour et qu'il a battu ce record puisqu'on en est à plus de 2 millions. Par jour qui ont pris déjà la première dose. Donc à peu près 200 millions d'Américains ont au moins une première dose de vaccin.
D'accord. Alors René, Joe Biden avait promis de collaborer avec les Républicains au Congrès, ce qu'il a encore du mal à réussir. Est-ce qu'il est en train justement de vivre la réalité de cette polarisation et qu'il a peut-être décidé d'y aller avec son programme, avec ou sans les Républicains? Et si oui, est-ce une bonne chose pour le pays?
Oui, de toute évidence, c'est ce qu'il a fait pour le paquet de relance, le paquet économique de relance de 1900 milliards de dollars. C'est difficile même à dire tellement il est important. Et il a essayé au départ de trouver un consensus avec les Républicains. N'y arrivant pas, il est allé seul en utilisant un procédé de réconciliation budgétaire au niveau du Congrès pour éviter le filibuster. Mais écoutez, je crois que c'est une difficulté qu'il a, mais c'est ce qui est intéressant à Abdurrahman, c'est que dans un sondage Washington Post ABC, il y a quand même 6 Américains sur 10, donc 60% des Américains lui dit qu'il faut qu'il insiste pour trouver le moyen de trouver des consensus avec les Républicains. Mais c'est tout à fait très très mal parti. Je ne vois pratiquement aucune question, ni sur l'infrastructure, ni encore moins sur les questions d'immigration. J'ai du mal à voir les domaines dans lesquels il va arriver à trouver
Vous pensez qu'il va essayer d'y aller seul sur cette question des infrastructures?
Oui, mais en même temps, vous savez, il est limité parce que la réconciliation budgétaire, vous ne pouviez à l'époque la faire qu'une fois par an, donc à peu près 4 fois. En moyenne, ça se faisait 3 fois, bon, jusqu'à 4 fois maximum par mandat. Là, il semblerait qu'il y ait une nouvelle opinion de la responsable parlementaire qui leur permettrait peut-être de le faire 2 fois dans l'année, mais on ne peut pas utiliser cette méthode trop souvent. Donc il y aura un moment où il va soit être bloqué, soit il va être obligé de littéralement gouverner par ordonnance.
D'accord. Alors, nous avons quelques commentaires que nous allons lire, des commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Hassan Omar Boulalé, il est à Djibouti. Il nous dit « Joe Biden a commencé à traiter et à signer des dossiers importants comme celui sur le climat. On attend du positif pour l'Afrique. » Archiduc Théodore de N'Djamena, il écrit « L'immigration est un dossier difficile. Les Américains doivent comprendre que la population des États-Unis est une diversité et qu'il faudrait régulariser les immigrés sans papier plutôt que de les expulser. Et puis Alphonse Mbouaki est à Kinshasa, il nous dit que les relations entre les policiers et les minorités ne seront normalisées, pacifiées que si la police américaine est réformée afin de la rendre humaine, professionnelle et non raciste. Voilà, donc nos deux derniers téléspectateurs qui d'ailleurs nous donnent, qui nous aident à passer à la deuxième partie qui sera consacrée à ces deux sujets, l'immigration et les relations entre la police et les minorités ici aux États-Unis. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Seconde partie de Washington Forum consacrée aux 100 premiers jours de Joe Biden à la présidence américaine. Et je rappelle mes invités, nous avons Marilyn Seafolk, le professeur à Howard University, également toujours dans la capitale américaine, René Lec, analyste politique et consultant, et Karine Kaneza-Nantulia, directrice du plaidoyer à la division Afrique de Human Rights Watch. Je reste avec vous, Karine, justement. On a vu malheureusement des incidents qui continuent, des incidents meurtriers qui impliquent la police et des membres de communautés noires, la communauté afro-américaine. Que faut-il faire pour que cette réforme de la police que Biden veut pousser puisse prendre forme?
Bon, d'abord, nos pensées, notre respect vis-à-vis des familles qui ont perdu les leurs et qui continuent à perdre les leurs. Et en termes de réforme, notre organisation a mis en place, en fait, a mis en place toute une série de propositions. Et je pense que la plus importante, à mon avis, et c'est un rapport en fait qui s'appelle réenvisager une feuille de route pour des réformes sur les forces du maintien de l'ordre, en fait. Et en fait, ces propositions s'articulent sur trois idées, trois grandes suggestions. La première, c'est de réduire l'empreinte policière dans les communautés. La deuxième, elle s'oppose sur justement la question d'un investissement plus large, plus profond au sein des communautés, pour augmenter l'accès aux soins, à l'éducation, au logement, etc. Parce que nous ne sommes pas les seuls à avoir fait cette analyse évidemment et être arrivés à ces conclusions, c'est que la pauvreté systémique et systématique, l'écart intergénérationnel parfois entre les communautés blanches et les communautés afro-américaines contribue énormément justement à cette multiplication de petits délits souvent qui ne devraient pas nécessairement mener à la perte, à une perte de vie, mais qui souvent, plus souvent qu'on ne le veut, y mènent à cause, justement, c'est là où on arrive à la troisième recommandation, qui est justement de mettre en place une série de mécanismes de réglementation et de supervision judiciaire sur les actes, les infractions commises par les forces de maintien de l'ordre.
Alors Marilyn, la police et les minorités, comment est-ce qu'on peut mettre fin à ces incidents qui finissent souvent, en tout cas dans beaucoup de cas, de façon tragique?
Alors il faudrait revenir à l'histoire même des États-Unis sans mettre le doigt sur l'historique de tout cela. Eh bien, on n'arrivera pas, même à coup de réforme, à changer cet état de choses, à changer le fait que beaucoup de Noirs américains se trouvent victimes, meurent aux mains de la police. Il faut donc revenir à ce qui s'est passé dans l'histoire des États-Unis, les tout premiers policiers, c'était des personnes qui patrouillaient les plantations et qui pourchassaient les esclaves qui en fuite pour les ramener à leur maître. Et cette mentalité, malheureusement, n'a pas beaucoup changé. Au fil des années, vous avez par exemple dans les années 1920, les policiers, dans les années 1860-70, naît le Ku Klux Klan. Et beaucoup de membres du Ku Klux Klan deviennent les policiers. Ensuite, vous avez les années 1920. Et dans les années 1920, eh bien, les policiers, 75% dans beaucoup d'États, 75% des policiers appartenaient au Ku Klux Klan. Ensuite, vous avez des arrivées massives d'immigrés qui viennent de toutes les parties d'Europe. Et les Blancs qui étaient déjà là, eh bien, ils deviennent les policiers. Par exemple, les Irlandais qui étaient déjà là, ben, ils deviennent les policiers des Polonais, par exemple. Et donc, après ça, vers les années 1950, tout ce monde-là est devenu en fait blanc. C'est-à-dire que tout ce monde-là s'est identifié à la race blanche et l'ennemi commun pour eux demeurait encore cet esclave en fuite dans les plantations, qui n'était plus esclave en fuite, mais qui faisait partie de cette espèce de masse dont les Blancs avaient intrinsèquement peur. Donc vous avez maintenant cette attitude est demeurée. Cette attitude a perduré, c'est une attitude de peur vis-à-vis de la communauté noire pourrait, dans l'imaginaire de certains Blancs, prendre une certaine revanche vis-à-vis de l'histoire, etc. Et donc il y a cette espèce d'attitude à vouloir polisser les Noirs américains, et cette mentalité n'a pas changé. Donc il faudrait vraiment un changement de mentalité, il faudrait peut-être que ce soit des psychiatres aussi qui fassent partie de cette équipe qui réformerait la police. Et donc il y a là tout un travail à faire, et il faudrait aussi qu'il y ait rencontre des différentes communautés pour que les communautés puissent converser entre elles, et quand il y a cette espèce de proximité, eh bien, la peur de l'autre diminue de façon drastique.
Oui, beaucoup de travail à faire, hein, René Lake. Mais est-ce que Biden et les démocrates ont les moyens de faire avancer la législation sur la réforme de la police?
Écoutez, il y en a une, là, je pense que c'est à celle-là que vous faites allusion principalement, la fameuse loi George Floyd. Trois composantes essentielles. Avoir une banque de données où, dans laquelle on pourrait consigner tous les manquements et tous les rapports négatifs par policier pour que ça puisse être national, parce qu'en ce moment, si un policier commet une faute dans un État, il peut très bien, même s'il est renvoyé, il peut aller trouver du travail ailleurs sans que cela n'apparaisse dans son dossier. Deuxièmement, la question de l'étranglement qui a été qui a posé énormément de problèmes, qui a été à l'origine de la mort de plusieurs Noirs entre les mains des policiers. Et troisièmement, et c'est là le point le plus difficile, sur ces deux premiers points, il pourrait y avoir un consensus à Blorman, mais le plus difficile, c'est le troisième point, c'est la question de l'immunité dont bénéficient les policiers. Certains républicains sont absolument intransigeants sur cette question-là et considèrent qu'il n'y a pratiquement pas de changement à faire, mais il semblerait que, bon, avec le sénateur Scott, qui est le seul sénateur noir républicain, il est en train de voir dans quelle mesure il pourrait essayer de rallier un certain nombre de républicains pour pouvoir obtenir les 60 voix au Sénat qui pourraient permettre de faire passer cette loi qui est déjà passée au niveau de la Chambre basse.
Karine, très tôt, hein, on a vu que le président Biden a pris des mesures fortes comme la fin du travel ban ou la protection des Dreamers. Mais la question sur le quota des réfugiés, mais également la situation à la frontière mexicaine, il ne fait pas l'unanimité, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il peut concilier tout cela et arriver à une politique d'immigration qui fasse consensus?
Je ne pense pas que c'est toujours facile et même possible de rallier toutes les troupes. Peut-être que le dénominateur commun, il faut essayer pour l'administration de Biden, de justement de bâtir un consensus sur un dénominateur commun le plus facile à percevoir, qui est par exemple justement une série de décisions par rapport à la réunion des familles, par exemple à la frontière.
La réunification des familles.
La réunification des familles. L'accès au logement et aux services de santé pour les adolescents et les jeunes non accompagnés. Et aussi avoir, et c'est assez important, avoir une politique sanitaire qui est nationale, mais qui aide justement à absorber l'impact négatif justement d'une politique d'immigration qui criminalise en fait les demandeurs d'asile. Et là, nous parlons de la couverture de santé universelle.
D'accord, qui est un autre sujet peut-être sur lequel nous allons revenir. Alors Marilyn, la vice-présidente Kamala Harris doit se rendre en Amérique centrale pour évoquer la question de l'aide, une manière d'éviter que les ressortissants de ces pays se rendent illégalement aux États-Unis. Pour vous, c'est la solution ?
C'est une des solutions. Évidemment, il y a eu pas mal d'efforts de fait de la part de l'administration Biden récemment. Il y a eu, pour ce qui est de l'immigration, il y a eu l'introduction d'une voie vers la naturalisation des immigrants qui sont illégalement aux États-Unis. Il y a aussi, ils ont établi aussi ce qu'ils appellent une task force, une équipe donc pour la réunification entre les enfants et les parents qui ont été séparés à la frontière. Il y a eu également l'administration Biden aussi, on en a complètement défait ce que Trump avait mis en place et qui visait à bannir les immigrants venant de pays musulmans. Il y a aussi eu une augmentation de la supervision de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Donc ce sont quatre choses qui ont été faites concrètement. Ce qui continue à être compliqué pour la vice-présidente et le président, c'est surtout la réunification des familles. C'est extrêmement délicat. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit du cas par cas. Tous les cas ne sont pas les mêmes. Il y a des cas où il s'agit d'enfants qui ont été vraiment utilisés comme des mules, par exemple. Il y a d'autres cas où il y a effectivement séparation des enfants et des parents. Il y a des cas où les enfants ont été séparés de leur famille en se rendant vers les États-Unis. Donc il y a eu séparation à la frontière. Donc chaque cas est extrêmement délicat et donc il s'agit de faire de démêler, si vous voulez, tous ces fils et d'essayer d'avoir une politique cohérente qui ne lève personne.
D'accord. Et René, pour terminer, le dossier de l'immigration est-il une patate chaude pour Joe Biden ? Comment est-ce qu'il peut s'en sortir ?
Oui, politiquement, ça l'est, de toute évidence. Le sondage auquel je faisais allusion tout à l'heure, Abdurrahman, il faisait son meilleur score au niveau de la gestion de la pandémie, y compris chez les républicains. Un tiers des républicains trouvaient qu'il faisait du très bon travail. Mais justement, sur la question de l'immigration, précisément celle aux frontières des États-Unis et du Mexique, il n'y a que 10% des républicains qui approuvent le travail qu'il fait. Et même, il faudra noter que même chez les démocrates, c'est là aussi où il fait le score le plus faible. Donc, de toute évidence, c'est pas une affaire simple pour lui. Politiquement, ça peut lui coûter très très cher, malgré l'argument que son administration utilise en disant qu'au fond, c'est tout cela, c'est les résidus de la politique de l'administration précédente. Mais de toute évidence, la majorité des Américains, démocrates comme républicains, ne semblent pas être de ce point de vue.
D'accord. Voilà. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Je remercie énormément mes invités, mais également toute l'équipe technique avec Lionel Gaema et Trésor Mutondo. Sans oublier nos téléspectateurs et nos chaînes partenaires et tous ceux qui nous ont suivis sur voaafrique.com et sur la page Facebook de VOA Afrique. À très bientôt. Au revoir.